en train d'offrir des sacrifices au Dieu en qui il croyait. Alors, face à de telles circonstances, c'est vrai, comme Claire l'a souligné tout à l'heure, il y a mille et une questions que l'on peut se poser, et il y a mille et une affirmations aussi qui fusent de toutes parts. Pourquoi ? Où est Dieu dans tout ça ? D'autant plus que là, dans le texte, il s'agissait de gens qui étaient des croyants, voyez-vous ? Qui offraient un sacrifice à Dieu, qui rendaient un culte à Dieu. Et au moment où ils rendaient un culte à Dieu, ils ont été massacrés. Comment se fait-il, expliquez-moi, que ce Dieu en qui ils croyaient ne les a pas protégés ? Je n'ai pas de réponse. Et personne ne l'a. Alors, il y a des gens qui ont la réponse. Et qui disent, s'il y avait vraiment un Dieu, pareille chose ne se serait pas produite. S'il y avait vraiment un Dieu dans ce monde, il ne permettrait pas que des fanatiques, des terroristes, eh bien, puissent agir sans que personne ne soit en mesure de les arrêter. Il les arrêterait lui-même. Ce qui prouve que eh bien, Dieu n'existe pas. D'autres disent, c'est une punition, c'est un châtiment divin. C'était l'opinion courante à l'époque, vous voyez. À l'époque, on pensait que si tout vous souriait dans la vie, si vous n'aviez aucun problème, si vous étiez en bonne santé, riche, heureux, prospère, c'était la preuve qu'il y avait l'approbation de Dieu sur votre vie. Et au contraire, si vous étiez frappé par le malheur, alors là, ça prouvait, ça démontrait d'une manière certaine que Dieu était contre vous et que il vous appliquait le tarif que vous méritiez. Et vous avez remarqué que face à ces interrogations, face à ces faits dramatiques, douloureux, qu'on lui a présentés, Jésus a fait un certain commentaire. Peut-être pas celui que les gens espéraient. Peut-être pas celui que ses interlocuteurs auraient aimé entendre. Mais Jésus dit là, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous voyez ? Jésus dépasse l'émotion qui peut être compréhensible quand de tels événements se produisent et quand des événements comme ceux que notre pays vient de vivre se produisent. Et il nous prolonge dans ce qu'il y a de plus important. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et mes amis, cet après-midi, c'est le message que j'ai pour vous. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que nous allons tous systématiquement mourir de façon tragique. Mais ça signifie qu'il serait tragique de mourir sans avoir auparavant fait la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Les victimes de ces faits qui nous sont relatés là, Jésus dira qu'ils n'étaient pas plus mauvais, plus coupables, plus pécheurs que d'autres qui ont été épargnés. Parce que pécheurs, mauvais et coupables, mes amis, nous le sommes tous. Et certes, ceux qui, les 130 et quelques personnes qui ont perdu la vie là-bas, à Paris, étaient des pécheurs. Mais vous savez quoi ? Nous aussi, nous sommes des pécheurs. Nous aussi, nous sommes des pécheurs. Personne, mais alors personne ne fait exception à cette règle. C'est une règle universelle. Et l'Écriture dit que le salaire, la conséquence, la suite logique du péché, c'est toujours la mort. C'est pourquoi nous mourrons tous. Que ce soit dans un lit d'hôpital entouré par la compétence du personnel médical et notre famille proche, ou que ce soit comme là, comme ici, comme ces jours-ci de façon dramatique, nous mourrons tous. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis c'est vrai, Jésus a osé le dire, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voyez ? Autrement dit, il a utilisé ces événements qui venaient de se produire. Il a propulsé l'émotion que ces événements avaient suscité pour faire un appel à la repentance. Vous périrez tous également. J'aimerais vous dire, mes amis, je l'ai déjà dit, je le répète, qu'il y a pire que de mourir tragiquement. Il y a pire que de mourir tragiquement. C'est affreux de mourir, n'est-ce pas, avec le corps criblé de balles. C'est affreux que d'être victime d'un tel massacre. Mais mourir sans avoir fait la paix avec Dieu, c'est encore plus tragique, car, mes amis, alors, nous connaîtrions, vous connaîtriez, la perdition éternelle. Et c'est à cela que Jésus fait référence en disant, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La perdition éternelle, c'est quoi ça? C'est le fait que si nous comparaissons devant Dieu au jour du jugement, car jugement il y aura, si nous comparaissons devant lui sans auparavant avoir réglé avec lui la question de notre péché, il n'y aura pas d'autre alternative possible pour nous que la condamnation, et nous connaîtrions alors les tourments éternels. Ce que je suis en train de vous dire, mes amis, c'est le message de la Bible. Et vous savez, la Bible n'est pas un vieux grimoire poussiéreux qui ne contient que de tristes histoires destinées à impressionner les gens faibles d'esprit et influençables. Non! La Bible est parole de Dieu. Et à ce titre, elle constitue un avertissement. Un avertissement divin, pour nous permettre d'échapper à un sort affreux. En l'occurrence, le sort affreux dont je vous parle et dont la Bible parle, c'est ça, les tourments éternels. L'enfer et les tourments éternels qui y règnent. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus indique par là que le seul moyen pour échapper à la perdition éternelle, c'est de se repentir. Et dans le livre des Actes des Apôtres, qui se trouve dans la Bible, n'est-ce pas, il y a ce texte qui nous dit que Dieu, écoutez ça, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Il s'agit de Jésus, bien sûr. Dieu annonce maintenant, ce n'est pas pour plus tard. C'est pas quand tu seras vieux. C'est pas parce que quand tu seras au bout du rouleau. C'est pas parce que tu auras vécu une vie comme tu l'entendras qu'alors au dernier moment tu penseras à ces choses-là. Non, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Mais au fait, puisque nous parlons de se repentir, de repentance, c'est quoi ça la repentance? C'est quoi la repentance? S'agit-il de se plier à des rites, des sacrements qui seraient administrés par un homme d'église? S'agit-il, de suivre toutes sortes de cérémonies compliquées? S'agit-il de formuler des paroles particulières? Non, la repentance, c'est d'abord une prise de conscience. Je suis un pécheur. Notre aventure avec Dieu, elle commence par ça. Je suis un pécheur. Par mes actes, par mes paroles, par mes pensées coupables, je suis un pécheur. C'est une prise de conscience, c'est aussi une affliction, une douleur, une tristesse douleur, tristesse, affliction, parce que nous réalisons qu'au travers de nos péchés, nous avons porté atteinte à la majesté, à la gloire de Dieu. Nous avons affligé son cœur. Vous savez, quand on aime quelqu'un et que quelqu'un nous aime, et qu'on fait du mal, même involontairement, à celui que l'on aime, on n'est pas content de soi, n'est-ce pas? On en est affligé. Ben, c'est ça la repentance. J'ai offensé celui qui m'aime et celui que je veux apprendre à aimer. Et j'en suis peiné, j'en suis bouleversé. C'est la repentance. La repentance, c'est encore la confession. Voilà, Seigneur, non seulement je comprends, je réalise, je prends conscience que je suis un pécheur, non seulement mon cœur en est affligé, mais je te confesse la réalité de mon péché. Je te demande pardon. Mes amis, si vous ne l'avez jamais fait, je vous en supplie, cet après-midi, faites-le. Tout à l'heure, là, dans un instant, quelques minutes, tout au plus, j'en aurai fini quant à mon discours. Mais je vous en supplie, pendant le moment de prière qui suivra, demandez pardon au Seigneur. Est-ce si compliqué cela? Que de lui dire là, dans son fort intérieur, on ne vous demande pas de le hurler à tue-tête. Non, c'est une affaire qui doit se régler entre Dieu et vous, vous et Dieu. Dites-lui, Seigneur, je regrette le mal que j'ai fait. Je regrette mes fautes, mes péchés. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je parle souvent de cet ami, prédicateur, même missionnaire, qui, il y a bien des années de cela, 40 ans et plus, était un pauvre garçon, en pleine dépression, en pleine déconfiture, travaillé par les questions existentielles, se demandant quel était le sens de sa vie, n'est-ce pas? Et puis un jour, quelqu'un lui a remis une invitation à venir écouter l'Évangile. Oh, ça n'était pas dans une salle comme celle-ci. C'était dans une maison, dans un petit village, un soir, là-bas dans le sud-ouest. Et ce garçon perturbé, n'est-ce pas, moral qui flanchait, eh bien, est venu écouter la parole de Dieu. Il y avait là un homme et quelques jeunes et moins jeunes qui parlaient de Dieu. Et cet homme prêchait, il n'a pas compris grand-chose à tout ce qu'il a rencontré ce soir-là, le prédicateur. Simplement, à la fin de son message, l'homme de Dieu a prononcé une phrase qui a touché le cœur de ce garçon. « Maintenant, a dit le prédicateur, dites, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. » Et cette phrase-là l'a bouleversé, l'a interpellé. « Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. » Voyez, ça lui est rentré dans le crâne, ça lui est rentré dans le cœur. Il est sorti de cette réunion toute simple, avec cette parole en tête. « Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. » Il a repris son véhicule est là, au volant, dans la nuit noire, tout en conduisant. Eh bien, il a formulé cette prière. Personne n'était avec lui. Si, Dieu était à bord. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Et il dira dans son témoignage, je le connais fort bien, lorsque le lendemain matin, il s'est éveillé, là, la dépression nerveuse s'en était enfuie, vous voyez. Dieu était passé par là, alléluia. Dieu avait évacué le sentiment de culpabilité, le mal-être, le trouble de son cœur, et lui qui était désespéré, lui pour qui la vie n'avait plus aucun sens, tout à coup, eh bien, tout avait changé, il était un homme nouveau. Chers amis, cet après-midi, que vous puissiez là, au cours de cette réunion, sans plus tarder, tout à l'heure, dans l'instant de prière qui suivra, lui dire, vous aussi, non pas répéter ça comme un perroquet, mais avec votre cœur, je dirais même avec vos tripes, si je puis m'exprimer ainsi, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. C'est la repentance. Et puis la repentance, c'est la prise de conscience, c'est l'affliction, c'est la confession à Dieu de nos fautes, évidemment, mais c'est aussi l'abandon. Il s'agit de cesser de faire le mal. C'est le prophète Ésaïe qui, dans le chapitre 55 de son livre, dira ceci, écoutez ça, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant, c'est-à-dire le pécheur en fait, abandonne sa voie, c'est-à-dire sa mauvaise manière de se comporter, qu'il abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car j'ai oublié de vous dire, et je complète cette omission maintenant, que quand on lui demande pardon, il nous pardonne. L'Écriture, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, à Dieu évidemment, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et vous savez quoi? Il n'y a personne qui sait pardonner comme lui. Nous avons nous tellement de mal lorsque quelqu'un nous offense, nous blesse, à pardonner. Nous ne pouvons pas ou difficilement nous sortir le souvenir de la tête. Il m'a fait ça. Et même si je veux essayer de faire comme s'il ne l'avait pas fait, j'y pense encore. N'est-il pas vrai? C'est ainsi. La Bible dit que quand Dieu pardonne, il ne se souvient plus de nos péchés. L'affaire est réglée. Il ne reviendra plus jamais sur la question. Abandonner le mal. Cesser de faire le mal. L'apôtre Paul exprimera sous une forme différente cette même pensée dans l'épître aux Thessaloniciens quand il nous dit « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Voyez, c'est ça. Abandonner les idoles, tout ce qui est contraire à la volonté souveraine et parfaite de Dieu. Renoncer à ce que nous savons être mal pour apprendre à servir, c'est-à-dire à obéir à Dieu selon ses commandements. La vraie repentance, puisque nous parlons de repentance, est aussi associée étroitement à la vraie foi. J'ai souligné il y a un instant la nécessité de faire la paix avec Dieu. Avant de partir dans l'éternité, avant de partir à la rencontre de notre Créateur, car mes amis, que nous le voulions ou non, nous avons rendez-vous avec Dieu. La Bible dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, c'est ainsi. Et faire la paix avec Dieu, ça signifie se réconcilier avec lui. L'Évangile, gloire à Dieu, c'est un message de réconciliation. Un message de réconciliation de Dieu avec les hommes. De Dieu avec les hommes et des hommes avec Dieu. Et pour que cette réconciliation intervienne, quelque chose s'est passé. Tout à l'heure, Claire y a fait allusion, et même plus qu'allusion, elle a développé cette idée dans son témoignage. Ce qui s'est passé, eh bien, c'est que Jésus a donné sa vie sur la croix. L'épître de Paul aux Corinthiens, une lettre que l'apôtre, saint homme de Dieu, a rédigée en faveur des chrétiens de l'église de Corinthe en Grèce, nous dit ceci, tout cela vient de Dieu, tout cela vient de Dieu. Et il dit, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Peut-être vous trouverez ce langage un petit peu hermétique, un petit peu compliqué. On va essayer de clarifier les choses. Se réconcilier avec Dieu. Faire la paix avec Dieu, n'est-ce pas? Pour que cela se produise, je viens de dire que quelque chose s'est produit, c'est que quelque chose s'est accompli, s'est réalisé, c'est que le Fils de Dieu a donné sa vie sur la croix. Pourquoi Jésus est-il mort? Vous avez pensé à ça? Certains disent, oh Jésus c'était un homme extraordinaire, mais son affaire a tourné court. Ça n'a pas marché comme il l'espérait, il était trop en avance sur son temps. Alors on n'a pas compris son message et on a voulu l'éliminer. Et finalement, il a simplement été victime de l'injustice des hommes, de l'incompréhension, de la bêtise humaine. Non, mes amis, ça n'est pas la vraie réponse. Jésus n'est pas mort comme contre son gré. Il a donné sa vie. C'est pas pareil. Il dira, ma vie, personne ne me la prend. Je la donne moi-même. Vous savez, au moment où il a été arrêté, il y avait un de ses apôtres, l'apôtre Pierre, qui avait un tempérament un peu sanguin, et il a sorti de derrière ses habits là, hein, une espèce de coupe-cheveux, et il a donné un grand coup et il a emporté l'oreille d'un de ces hommes qui osait mettre la main sur Jésus, et Jésus l'a arrêté en disant: arrête, mets ton épée au fourreau, ne penses-tu pas que si je le voulais, je pourrais invoquer mon Père, Dieu, qui m'enverrait à l'instant 12 légions d'anges qui me libéreraient. Mais comment l'Écriture s'accomplirait d'après laquelle il doit être, il doit en être ainsi. Jésus a donné sa vie. Sa vie fut, sa mort fut un sacrifice, mais un sacrifice volontaire. Lui, l'innocent, le parfait, le saint, le pur, le vrai, le juste, le droit, s'est chargé de nos misères, s'est chargé de nos péchés, s'est chargé de nos souillures, s'est chargé de tout ce que tu as fait de mal et de tout ce que j'ai fait de mal et de tout ce que les hommes et les femmes du monde entier ont fait de mal. Et là, sur la croix, il accepte de subir à la place de chacun d'entre nous le châtiment, la punition que nous méritions. Jésus est mort pour nous. Il est mort pour et à cause de nos péchés. Et c'est au travers de ce sacrifice que nous pouvons recevoir le pardon. Dieu est un Dieu qui fait grâce. Et par définition, la grâce, c'est gratuit. Mais si le salut que Dieu nous offre est gratuit en ce qui nous concerne, il fut extrêmement coûteux en ce qui le concerne. Puisque pour nous, sauvés, Jésus, le Fils de Dieu, a dû donner sa vie. Tel fut le prix pour que toi et moi, nous puissions échapper à la condamnation, à la malédiction, au jugement, à la perdition éternelle. De telle sorte que pour celui qui croit, pour celui qui reconnaît que Jésus a dû mourir pour ses propres péchés, pour mes péchés à moi, eh bien, la réconciliation intervient, le pardon est communiqué, il n'y a plus de condamnation. D'ailleurs, la Bible le dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pourrons terminer cette réflexion avec ce texte bien connu, fameux, de l'évangile de Jean, où il est dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... » C'est qui, quiconque? C'est toi, c'est moi, c'est l'autre, c'est lui, c'est elle, c'est celui-ci, c'est celle-là, c'est cet autre, c'est le blanc, c'est le noir, c'est le jaune, c'est le français, c'est le polonais, c'est l'arabe, c'est le juif, c'est quiconque, je suis quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voyons, on retrouve le même verbe, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en parallèle, nous avons cette parole de Jésus que nous avons citée au début. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, chers amis, moi, je me suis acquitté de ma responsabilité. Ma responsabilité consistait cet après-midi à vous communiquer, non pas mon message, non pas ma parole, non pas mes idées, mais la parole de Dieu, le message de Dieu. Et pour vous, cet après-midi, le message de Dieu, puissiez-vous le prendre en considération, en tirer profit et en tirer les conclusions et les conséquences qui s'imposent. Le message qui vous est adressé, c'est celui-ci: si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Puissiez-vous vous repentir maintenant, parce que vous avez vu ces événements qui viennent de se produire, nous montrent que la mort peut surgir par surprise, n'est-ce pas? Ces gens qui étaient allés assister à ce concert, ces gens qui étaient installés tranquillement à la table d'un restaurant, n'imaginaient pas une seconde ce qui allait se produire. Et en un instant, une fraction de seconde, ils sont passés de vie à trépas et ils ont été précipités dans l'éternité. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Recueillons-nous quelques instants, s'il vous plaît. Notre Dieu,